Oui, Tourny, vous venez de présenter la saison, la programmation 23-24 de la Garance, la scène nationale de Cavaillon. C'est votre deuxième saison. Est-ce que vous avez tiré déjà quelques enseignements par rapport à la première saison ?
Je ne sais pas si on peut déjà parler d'enseignement. Je crois que je suis encore dans une phase de découverte. Peut-être que c'est finalement un état d'être au monde que d'être toujours dans une forme de curiosité et de découverte au moment où de travailler à penser et concevoir des projets artistiques sur un territoire. Et puis peut-être aussi, l'enseignement, c'est quelque chose dont on bénéficie toute sa vie, quoi. Je ne sais pas s'il y a un moment où j'aurais tiré des conclusions, et je crois que j'aime bien rester en posture de doute.
En attendant, pour la saison 23-24, donc il y a 38 propositions, dont un tiers sont des créations. La création, comment, par rapport au fait que lorsque vous choisissez, c'est un projet et que le spectacle n'a pas encore été créé? Alors, quels sont vos critères de choix?
Je crois qu'à la base, il y a avant tout une rencontre qui peut se passer avec une artiste ou une équipe artistique et l'envie finalement de s'engager aux côtés de cette équipe et aux côtés de ce projet-là spécifiquement. Donc, je pense que la magie de la rencontre doit opérer à chaque fois au moment de s'engager sur une création. Ensuite, il peut évidemment y avoir un intérêt particulier pour le propos, pour le récit, en fonction des projets, une envie particulière parce que la création va entrer en résonance avec la spécificité de la structure. Par exemple, il y a certaines créations qui sont portées par des artistes du Vaucluse, des artistes du département, et pour nous, il est important aussi d'être là, engagé aux côtés des artistes du Vaucluse. Mais enfin, la résonance peut être aussi à un autre endroit qu'une forme de proximité géographique. Elle peut être sur des enjeux politiques qu'on va partager. Et finalement, ça va être la pluralité de ces éléments qui va acter l'engagement de la Garance sur de la création.
Donc 80% des propositions sont remportées par des dames. Et là, je viens d'apprendre en vous écoutant qu'en fait, les projets les plus lourds sont généralement confiés aux hommes. C'est lié à quoi ça ? Ça signifie que les femmes n'ont pas les épaules ?
Évidemment que non. Alors que c'est 50% de la programmation qui est portée par des femmes. Donc là, on est sur une parité absolue, 50-50. C'est 80% des créations, effectivement. Parce que aujourd'hui, au moment de monter des projets et de réunir les fonds qui sont nécessaires au processus de création, les femmes peinent encore plus. Peut-être qu'il y a encore des biais d'analyse, de la même manière que dans la création jeune public, pour le coup, les femmes bénéficient, à contrario, d'un crédit supérieur, comme si elles avaient de plus grandes capacités à s'adresser aux enfants que les hommes. Donc je pense que les biais, dans quelque sens que ce soit, doivent être combattus et que c'est notre endroit d'accompagner chacun là où il a envie d'aller et pas là où on lui suggère d'aller.
Cette année, le premier spectacle accueilli par la scène nationale, au tout début du mois de janvier, c'était le spectacle de Rebecca Chaillon, dont on a beaucoup parlé pendant le Festival d'Avignon pour une autre proposition. Là, le premier spectacle que vous accueillez, c'est Les Consolantes, début 2024, de Pauline Susigny, qui est une artiste associée de la scène nationale de Cavaillon. Alors, est-ce que ce choix de janvier, il est symbolique? Qu'est-ce qui vous a séduite dans le travail de Pauline Susigny?
Pauline Susigny est une artiste d'une immense intelligence et d'une très grande finesse qui s'attaque à un sujet très complexe puisqu'elle croise dans sa pratique une approche historique, sociologique et poétique en se nourrissant même, on va dire, des mythes fondateurs des sociétés occidentales et vient comme ça nourrir la création de l'histoire du temps présent. Déjà, je trouve ça magnifique, moi, l'histoire du temps présent, et c'est une question qui m'anime beaucoup au quotidien, de penser de quelles traces va-t-on garder, de quoi on se souviendra demain. Et finalement, je crois que c'est une question qui est profondément celle du spectacle vivant. Donc Pauline est comme ça dans cette capacité à mettre en résonance et en écho des témoignages du réel. Donc elle travaille sur une base de 20 textes qui ont été collectés par la BNF auprès de personnes ayant vécu de près ou de loin la question des attentats de Paris et de Seine-Saint-Denis de novembre 2015. Et puis elle met ça en résonance et en écho avec une écriture de plateau et avec des grands mythes fondateurs. Donc je crois que dans cette approche-là de fictionnalisation du réel, Pauline est extrêmement forte. Par ailleurs, elle pose la question de la reconstruction. Et c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui qui parle beaucoup de résilience, plutôt d'un angle développement personnel, qui moi me touche moins que la question de la reconstruction individuelle et collective, mais dans une approche plutôt sociologique, anthropologique, politique et même financière. Combien vaut une vie ? Comment on peut se reconstruire individuellement et collectivement après une perte ? Et je trouve que le regard de Pauline sur cette question extrêmement importante nous est précieux. Voilà.
Auparavant, vous restez fidèle à vos festivals à l'intérieur de la programmation avec le festival Manip. Alors, le festival Manip, c'est autour de la magie. Est-ce qu'il existe une différence entre les magiciens de théâtre par rapport aux magiciens de cirque ou de musical ?
Les magiciens sont partout, parfois même on ne sait pas. Et d'ailleurs, je crois que la carrière de nombreux magiciens et magiciennes s'est faite par le passé en signant plutôt soit en marque blanche, soit en tant que scénographe. Ils apparaissaient pas ou très peu en tant que metteurs-metteuses en scène, mais en fait, ils étaient déjà là. Et le théâtre reste une grande magie. Donc je ne sais pas si aujourd'hui il y a une différence. Maintenant, c'est quelle dramaturgie se construit à partir d'une technicité certaine et comment les magiciens s'emparent aujourd'hui de cet aspect-là de dramaturgie et se dotent de capacité à raconter leur propre récit qui se tricote autour de leurs propres compétences.
Il y a le spectacle sur la magie, il va y avoir aussi un grand spectacle sur les supporters. Pas les supporters de l'OM, c'est les supporters du RC Lens. Il y a même une friterie qui va arriver avec de vrais supporters lensois qui seront là pour deux soirées. J'ai l'impression que dans vos programmations, aussi bien l'an dernier que cette année, ce qui vous intéresse, c'est de faire péter les cloisons en fait. C'est la transversalité.
Mais je crois qu'on a beaucoup à apprendre de la lutte contre l'entre-soi. Voilà, ça je crois que c'est quand même une de mes convictions profondes. Et quand je dis la lutte contre l'entre-soi, c'est pas que l'entre-soi des autres, c'est aussi le mien. Je pense qu'avant de remettre en question l'autre, il est important de se remettre en question soi. Et que dans cette lutte contre l'entre-soi, il y a comment on se nourrit des récits et des imaginaires des uns et des autres, comment on organise la rencontre et comment effectivement on essaye d'avoir une pensée qui est complètement désilotée. Je crois que c'est quelque chose qui a pu faire du mal par le passé, d'aborder, mais chacun dans son coin, des questions qui pour autant étaient générales, sociétales, et qui donc nous concernaient tous et toutes. Et je crois qu'on se nourrit de la pensée et du regard de l'autre, tout comme l'autre se nourrit de notre pensée et de notre regard, et que oui, faire péter les cloisons, c'est très important. C'est vraiment... En tout cas, faire péter peut-être pas, mais créer des failles et des interstices, des brèches, ça oui, c'est sûr.
Le fait de ne disposer que d'une seule et grande salle, qui est la salle qui est derrière nous, là, rue du Languedoc, c'est un avantage ou c'est un inconvénient, finalement?
Je crois que c'est un avantage, finalement. En fait, toute forme de contrainte peut être aussi vue comme un avantage. J'aime bien, j'ai beaucoup d'estime pour la pensée contrainte et pour le cadre quand on s'en libère. Voilà. Je crois que dans la manière dont je travaille, la question du cadre est extrêmement importante et la question de comment on joue avec le cadre est extrêmement importante. Donc finalement, l'outil m'a été donné ainsi, m'a été donné à toute l'équipe et à ce projet surtout, ainsi avec une seule salle. Je ne m'interroge pas sur ce qu'il aurait pu être. Je m'interroge sur comment je peux valoriser au maximum l'outil présent et comment je peux m'en émanciper au maximum. Voilà. Par ailleurs, il est vrai qu'aujourd'hui, des structures comme les scènes nationales ont dans leur équilibre budgétaire des frais structurels importants et notamment la question des fluides, une question terrible pour les lieux culturels que nous sommes, puisque l'argent qu'on dépense en électricité, en gaz, est autant d'argent en moins qu'on peut mettre dans le projet artistique, et que plus la structure est grosse, plus elle est énergivore, et qu'aujourd'hui, travailler en ayant le luxe d'avoir à la fois une structure, mais à la fois cette capacité à aller faire le Bernard l'ermite et aller se glisser dans des lieux non dédiés, alors c'est une chance.
Tout à l'heure, j'ai parlé de Pauline Susini, on peut citer l'Eilaka, on peut citer également le Béga Théâtre. Ils traversent les directions de la scène nationale. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir comme ça des artistes compagnons? Je ne sais pas quel est le terme que vous utilisez maintenant.
Aujourd'hui, nous, on dit artistes complices.
Oui.
Alors, ça signifie un engagement sur le long terme. Voilà. C'est des artistes pour lesquels on diffuse le répertoire. Ça, c'est important parce que souvent, il y aurait cette idée d'une durée de vie d'un spectacle, comme si, comme un yaourt, au bout d'un moment, il se périmerait. Et je crois que c'est quelque chose où il faut s'inscrire en contre. Certains spectacles peuvent vivre bien plus longtemps que ce que les logiques du champ culturel ne permettent et qu'il faut accompagner cela. Donc, on reprend le répertoire de ces artistes-là. On s'engage systématiquement en coproduction sur leur future création. Et par ailleurs, ils vont réaliser sur le territoire un travail de l'ombre, qui est un travail d'action culturelle auprès de certains publics, qui va être un travail réalisé parfois en prison, parfois dans des centres sociaux, parfois auprès de groupes d'enseignants. Ils vont être à nos côtés aussi et partager les convictions qu'on défend de réenchantement du présent.
Le prochain spectacle, hormis le spectacle d'aujourd'hui, c'est un récital, un tour de chant. Ça a une signification particulière ?
J'aime beaucoup les tours de chant, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse bien et puis sur lequel la garance avait été assez absente l'année dernière. C'est une des difficultés des scènes nationales d'être à tous les endroits en termes de création contemporaine et on ne peut pas se le permettre. Donc chaque année, on va avoir une couleur, parfois plutôt cirque, parfois plutôt théâtre, parfois plutôt danse. Il se trouve que cette année, on a une couleur plutôt musique. Et il se trouve qu'on est sur une forme qui va permettre de toucher beaucoup de monde. Et c'est vrai que c'est intéressant pour une scène nationale d'ouvrir sur une forme comme ça parce que ça lance quelque chose de très joyeux pour l'équipe et pour le public. Et ça vient rythmer un début de manière festive. Et ça, c'est bien sûr intéressant pour tout le monde.
Bon début de saison et puis à très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup.